Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules sur RMC. La ville de Paris devient moins attractive et se vide de ses habitants. Mais est-ce la faute d'Anne Hidalgo? Pour Charles Consigny, l'avocat des GG, la réponse est oui. Selon lui, Paris devient une ville où il n'y a plus que des logements publics et des pistes cyclables.
Moi, je considère que, comme l'a tweeté très justement Olivier, ça vaut tous les sondages. 130 000 personnes qui quittent Paris, c'est dire ce que Hidalgo a fait de Paris. J'ai vu que la municipalité, son équipe, disait oui, c'est parce que les loyers sont trop chers, on va construire des logements publics. Donc c'est bien, ça va être Berlin-Est jusqu'au bout. Paris.
C'est hyper méprisant ce que tu
Hidalgo,
dis.
C'est une ville où il n'y a plus que des logements publics, où il n'y a plus de voitures, où il n'y a plus que des vélos publics, où il n'y a même plus les trottinettes privées, où tous les commerces ferment et où la mairie taxe comme nulle part ailleurs. Excuse-moi, alors, ça devient une ville soviétique.
Tu as dépeint une ville que je ne connais pas, même si je n'y habite pas.
C'est la ville de Paris. Non, on peut dire sans polémique que Hidalgo a détruit Paris.
Voilà, Charles Consigny, un peu dur sur la ville de Paris, moins 130 000 habitants en 10 ans, et vous faites partie de ces 130 000 habitants, Pierre Rondeau, parce que vous avez quitté la capitale l'année dernière.
Eh oui, je suis passé de Paris à Gentilly, donc la proche banlieue. J'ai beau ne pas être d'accord sur tout ce que dit Charles Consigny, là, force de constater qu'effectivement, Paris est en train de se segmenter entre les très riches et les très pauvres. Il y a à la fois beaucoup de logements privés où les loyers sont exorbitants, et on en parlait récemment, quand on a un deux pièces ou un studio à plus de 1000 euros, c'est absurde et aberrant. Il suffit de comparer la province, c'est du grand n'importe quoi l'immobilier privé parisien. Et inversement, on a les logements sociaux.
Les salaires sont plus forts, un peu plus élevés.
Oui, soit, mais passer... On va à Nantes, on va à Rennes, on va dans des villes proches à 2 heures ou 3 heures de Paris en train, et on divise par deux les loyers, on divise pas par deux les salaires. Donc c'est pas une question uniquement de salaire, c'est aussi une question de marché. Et le marché privatif parisien, lié à la spéculation et aussi à la présence très forte d'Airbnb et des locations de court terme d'immeubles et d'appartements parisiens, les prend à exploser. Donc on a à la fois le parc privé locatif qui est exorbitant, et à côté, la solution trouvée par la mairie de Paris, c'est la construction de logements sociaux. C'est une bonne chose, mais on a cette segmentation entre les classes populaires et les classes aisées. Mais la classe moyenne parisienne auquel je faisais partie disparaît totalement, fuit la ville. Moi, à la rigueur, je suis célibataire sans enfant, donc c'est pas la fin du monde. Mais mettez-vous à la place de famille, un couple, deux enfants, vivre dans Paris, c'est impossible, quand on fait partie de la classe moyenne. Vous prenez le 1er, 2e et 3e arrondissement, il y a des écoles qui ferment. Et ça, depuis 15 ans, il y a des écoles qui ferment. Il n'y a plus d'enfants. Les familles parisiennes sont incapables de se loger à Paris. Maintenant, pour être parisien, il faut soit être un cadre supérieur très aisé, soit bénéficier d'un logement social. Et là, on fait des espèces de quartiers, des cités parisiennes d'immeubles HLM. On n'a plus cette espèce d'hétérogénéité sociale parisienne, c'est vraiment une segmentation entre les très riches et les très pauvres.
Mais même si t'es en logement social, je ne sais pas comment tu fais pour vivre à Paris.
Parce et pour les courses derrière,
cher.
Bien sûr.
Les courses alimentaires, c'est 10 fois plus cher. Voilà, et Paris se vide. C'est vraiment de la faute d'Anne Hidalgo ou pas, Jérôme Lavrieux?
Moi, je crois que c'est en partie de la faute d'Hidalgo, mais pas seulement. Et je pense qu'il y a un biais à ces chiffres-là. Ce qu'il faut regarder, c'est Paris et la proche banlieue. C'est comme si vous regardiez Bordeaux en regardant juste le centre-ville et pas les quartiers périphériques qui font partie de Bordeaux, où on a les grands enfants.
Ah ouais, mais bon,
sociaux,
tu passes le périphérique, les loyers, c'est moins 15, moins 20%.
Oui, non, mais je pense qu'il faut les regarder comme s'ils faisaient partie de Paris. C'est l'agglomération parisienne qui faut regarder.
Mais on n'y vit pas pareil.
Mais bien sûr, mais dans les quartiers, dans le quartier de l'Europe à Saint-Quentin, on y vit beaucoup moins bien qu'en plein centre-ville de Saint-Quentin. Oui. Et pourtant, c'est la même ville et les loyers sont différents et le coût de l'immobilier est aussi différent. Oui. Donc il faut les prendre si on veut analyser la totalité des choses, même s'il y a une tendance à la boboisation.
Ah, totalement.
Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas juste la tendance à la différence de loyer, etc., le prix de l'immobilier, c'est la désertification avec des gens qui achètent des logements et qui ne les occupent jamais.
Exactement.
Qui ne les occupent jamais. Même, ils vont même plus les louer pour Airbnb, ce qui faisait venir des gens et de la clientèle à la rigueur pour l'économie, mais maintenant ils sont vides. Des Brésiliens, des Anglais, vacants, des Américains, c'est pas des logements vacants qui n'appartiennent à personne, c'est des logements qui appartiennent à quelqu'un.
Logements vacants qui appartiennent aux propriétaires.
Jamais pas utilisés.
Bien sûr.
Et ça, c'est un drame.
Périco, les gars, c'est ce que Paris va devenir une ville morte. En tout cas, les restos, ça marche bien. C'est incroyable.
Il reste ça parce qu'il y a quand même de la. Paris symbolise une certaine idée de la France, de l'histoire, de la gloire de la France. Tout ce que je déteste, tout ce que déteste Hidalgo et sa clique, c'est-à-dire l'écologauchisme idéologique, voilà, pour lequel on peut avoir du respect. Et donc, ils détruisent Paris parce qu'ils haïssent ce que Paris représente. Et ils vont y arriver tout doucement. C'est assez facile. Mais le symbole parisien qui symbolisait cette France dans la diversité, dans la culture, dans l'art, dans la grâce, la ville lumière, ils vont en faire quelque chose de sale et de moche. Je me souviens, mais c'est pas à eux que j'en veux. C'est aux bobos parisiens un peu de gauche qui ont voté pour elle. Je me souviens quand Bernard Tapie avait dit des électeurs du Front National, des Bouches-du-Rhône, les salauds qui votent Front National ou Régional. Eh ben, j'ai envie de dire les cons qui votent Anne Hidalgo, mais qui sont en train de détruire. Mais ils sont peinards. Donc j'en veux beaucoup plus à l'électorat qui l'a reconduite. Elle ne représente que 17%. Elle a eu 50% de 37% de participation.
Et en plus, son adversaire, il a eu moins.
Non, mais je te dis pas, je me dis qu'elle se comporte.
Non,
c'est qu'elle se comporte comme si elle avait 95% d'assentiment. Elle est en train de pourrir la vie de la population. Les gens s'en vont. Il y a des rats partout. La saleté de la ville. On va pas faire le descriptif de Paris. Je veux dire, c'est une responsabilité politique, je trouverais normal qu'un jour elle rentre compte sur les...
Les électeurs, non, elle touche de cons...
Oui, ils ont fait un vote bête. Ils ont fait un vote très bête. Ils ont lancé le droit de vote, je le respecte totalement. Voilà, ils ont fait un vote absolument bête.
On a mis beaucoup sur mordre les doigts.
Ils font du mal, d'ailleurs. C'est pas ça.
En fait,
c'est pas eux les vrais responsables. Ce sont ceux qui sont pas allés voter. Les 66% d'abstentionnistes qui aujourd'hui se plaignent. Alors, je présente mes excuses à ceux qui sont allés voter. Ils ont voté en fonction. Ceux qui sont pas allés voter, eux, sont seulement, ils sont cons, mais ils sont salauds.
Voilà. Et puis, à mon avis, ils vont le regretter quand ils vont voir leur taxe foncière augmenter de 50% l'année.
Mais c'est quand même un fléau.
Le face-à-face. Faut-il réduire le montant des retraites des anciens présidents et parlementaires? François Hollande était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin. Il affirme qu'il a une retraite comprise entre 11 000 et 12 000 euros. Écoutez.
Moi, j'ai donné tous mes revenus. Pour ce qui concerne le président de la République, j'ai 4 000 euros de retraite pour le président de la République, puisque je ne siège pas au Conseil constitutionnel. Je me suis donc privé, à juste raison, je ne siège pas au Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas aucune rémunération d'ancien président de la République. J'ai une retraite pour la Cour des comptes d'à peu près 4 000 euros, et le reste sont des retraites, une retraite parlementaire. Ce qui fait que j'ai des revenus de 11 à 12 000 euros. Donc j'ai tout mis sur la table pour que chacun comprenne bien.
Il a plus que ça.
Jérôme Lavrieux, une retraite pour François Hollande comprise entre 11 000 et 12 000 euros, ça vous choque, vous ?
Non, mais ça me choque pas qu'un ancien président de la République ait une retraite importante et en plus payée par le contribuable. Ce qui me choque, c'est que je pense...
Il dit qu'il n'y a pas de retraite de président de la chez moi.
Non, mais en fait, il nous fait une petite entourloupe parce qu'il nous dit je touche pas de retraite d'ancien président de la République parce que je ne siège pas au Conseil constitutionnel. C'est deux choses différentes. Un ancien président de la République de mémoire a le droit à 5 000 de retraite, mais il a le droit à plus s'il siège au Conseil constitutionnel. Ah. Donc il y a un petit oubli en la matière. Et je serais très étonné qu'une personne qui a fait toute sa carrière à la Cour des comptes sans jamais y mettre les pieds, mais qui en touche une retraite quand même, soit juste à 4 000 euros de retraite en ayant fait toute sa carrière.
Et
à mon avis, il a suivi toutes les progressions. Ça mériterait une petite vérification, même si sur le fond, je vous le dis, moi je ne serais pas choqué, ça ne concerne pas des centaines de milliers de personnes qui est un ancien président de la République.
À une condition,
c'est qu'il ne tire pas de revenus d'autres sources, auquel cas il ne devrait pas avoir droit à sa retraite. Parce que s'il tire des revenus d'autres sources, les conférences, les livres, etc., c'est parce qu'il a une aura d'ancien président de la République. Et donc il devrait renoncer à la retraite qui lui est fournie par le contribuable, lui et les autres.
Oui, il y avait d'autres sources, c'est le Figaro qui cite ces sources, c'est simple, c'est le cabinet de l'Élysée. Il a oublié aussi peut-être sa retraite d'ex-député de Corrèze. Non, mais en fait, c'est pas...
Il parle de parlementaire.
6208 euros net, plus 235 euros en tant qu'ancien président du Conseil général de Corrèze, ce qui nous donne 15 000 euros. net.
Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, 235, vu la carrière qu'il a eue de président du Conseil général, il oublie juste, ça c'est vrai quand il est en fonction, parce qu'il est écrété, mais quand vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas écrété.
Ce qui est sûr, que ce soit 11 000 ou 15 000, dans tous les cas, moi personnellement, ça me choque. D'autant plus qu'on débat actuellement de la réforme des retraites et d'imposer aux Français à travailler 2 ans de plus pour avoir le même montant de retraite et le même montant de pension, et qu'à côté, les députés, parce qu'on parle que là de la retraite de président, mais aussi la retraite des sénateurs et des députés qui ont un régime spécifique. Alors,
et les sénateurs ne veulent pas y
renoncer. Les sénateurs ont un régime spécifique, voilà. Les députés ont été intégrés au régime de la fonction publique. Non, sauf que c'est France Info qui a fait un article checking, un fact-checking sur la retraite des parlementaires députés à l'Assemblée nationale. 2 mandats, donc 10 ans élus députés, donnent droit depuis le 1er janvier 2018, donnent droit à une retraite dès 62 ans de 1300 euros net. Vous faites 10 ans de député, 2 mandats, vous avez automatiquement 1300 euros net.
Mais c'est pas 7000, 1300 euros net, c'est pas 7000.
C'est le même calcul que pour un cadre dans le privé.
Mais 10 ans,
le même calcul.
Vous cotisez 10 ans, vous avez automatiquement, même si vous n'êtes pas à jour de cotisation, même si vous n'avez pas vos 43 ans,
vous avez rien que pour ça 1300 euros.
Vous avez juste pour 10 ans de mandat de député à côté, vous êtes ce que vous voulez, mais vous ne travaillez pas, vous avez 10 ans de cotisation de député, vous avez de fait à 62 ans 1300 euros de retraite.
Vous avez la même retraite que quelqu'un qui a bossé 40 ans.
Voilà. Ce n'est pas le même métier non plus, Péricourt.
Député, mais ça devrait toucher beaucoup moins.
Ce
n'est pas le même métier, c'est beaucoup moins dur député, on est d'accord. Rémi, tu veux dire quelque chose?
Non, je disais ce qui surprend aussi, c'est le cumul des retraites.
Oui, aussi.
Alors voilà, j'y venais. Non, alors on lui fait choisir laquelle tu prends. Ah, tu vas pas cumuler toutes les retraites.
Mais n'importe quel salarié a le droit à l'agir carco, au régime
Quand on a été président de la République, on peut pas dire. Alors, il prend sa retraite de président de la République, elle est justifiée. Ouais. C'est un métier vraiment où on peut légitimer, bon, même s'il a fait qu'un mandat. Mais il peut pas en plus dire la Cour des comptes est parlementaire. Non. Quelque part, ça annule l'un l'autre. On lui laisse de quoi vivre.
Mais alors, comment on décide?
Si on prend la présidentielle. Mais là, il ne prend pas sa retraite de président.
Non, il a dit qu'il la comptait pas.
Je crois qu'il prenait pas la partie.
Pas celle du conseil constitutionnel. Mais il a membre du conseil constitutionnel.
Voilà, mais il prend bien sa retraite de président de la République. Ça suffit pour vivre. C'est 7000 euros à loin. C'est ça. Voilà.
Mais alors, en fait, ça veut dire que lui, qui a été président de la République, tu vas lui enlever une partie de sa retraite, en fait.
Ouais.
Non, je pose la question.
Il prend la retraite de sa dernière fonction. On prend le dernier boulot.
Laquelle.
Mais la Cour des comptes, et ça fait combien de temps qu'il n'est pas à la Cour des comptes?
Il a été président, qu'on soit d'accord avec ce qu'il n'a pas fait ou pas, il a quand même été président. Il a été député, il a été conseiller général. Il n'a jamais travaillé à la Cour des comptes de sa vie. D'accord.
C'est un statut qu'il a.
Mais parce qu'en tant que haut fonctionnaire, il reste membre de la Cour des comptes.
Il s'est mis en réserve.
Et il n'en touche pas de revenus. Pendant qu'il est en âge de travailler.
Il touche une retraite pour un boulot qu'il a
alors,
fait.
Il faudrait
que quelqu'un qui est haut fonctionnaire choisisse, soit il reste élu, soit il démissionne de son.
Là, il a le beurre, l'argent du beurre, la vache et le gris depuis la crémière.
Tu ne peux pas toucher une retraite. Moi, je ne suis pas choqué qu'il ait une belle retraite en tant que président.
Moi non plus, mais pas tout.
Il a un boulot plus stressant que le mien, etc. Mais toucher une retraite pour un boulot que tu n'as pas fait.
Oui, là, c'est embêtant.
Autrement dit, François Hollande est le prototype du mec qui n'a jamais travaillé.
C'est pas très socialiste.
Il a travaillé en tant que en tant que politicien,
je nie le mot travail. Il a une activité tout à fait honorable. Non,
je nie le mot travail. Mais à l'heure actuelle, quand les Français sont debout contre la réforme des retraites et qu'on parle de la retraite cumulable du président de la République entre députés de Corrèze, président de Corrèze, Cour des comptes et autres, ils soient entre 11 000 et 15 000 euros. Alors, je remets pas du tout en cause le montant de la retraite d'un ancien président. C'est vrai, on pourrait aussi amener à augmenter ses rémunérations pour améliorer le prestige et attirer des gens compétents. Mais ça peut choquer les Français. Et je te rejoins aussi sur la question du cumul entre la retraite et les activités en tant qu'ancien président. S'il fait des conférences et qu'il vend des bouquins, qu'il a des revenus et qu'en il touche 11 000 euros de retraite, là, effectivement, c'est choquant.
Mais
aujourd'hui, n'importe quelle personne en France, à chaque fois qu'il touche quelque chose, paye des cotisations de retraite, donc touche après à sa retraite. Ça veut dire que tu décides à partir d'aujourd'hui que les présidents de la République sont exclus
du système. Les revenus de plus de 10 000 euros par mois, le montant de tes cotisations, c'est au titre de la solidarité, c'est 2,8%. Ce n'est pas les 28%.
Ils font tous des conférences.
Quand tu as l'âge d'être en retraite, les revenus que tu as, tu ne payes pas de cotisations retraite dessus.
Et ils font tous des conférences extrêmement bien payées, ils ne le disent pas, mais tous. Voilà.
Si certains le disent. On va terminer avec un extrait de Charles Matin. Faut-il interdire la viande transformée? Foodwatch France lance une pétition avec la Ligue contre le cancer pour bannir les additifs de la viande sous vide. Pour Karine Jacquemart, elle est directrice générale de l'association Foodwatch France et lanceuse d'alerte, l'interdiction de ces additifs est nécessaire.
On veut qu'on retire les additifs qui présentent un risque pour la santé. Donc on parle des E249, 250, 251, 252 que vous pouvez trouver dans la liste des ingrédients. C'est légal pour le moment. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne interdit. Quand il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a un risque pour la santé, et là c'est le cas avec ces nitrites dans la viande transformée et plusieurs études scientifiques dont l'ANSES, l'Agence nationale d'évaluation de la sécurité sanitaire, qui a confirmé en juillet qu'il y a des liens entre ces additifs dans la viande transformée et des risques de cancer, notamment de l'estomac et colorectal. Et bien, quand il y a ces risques pour la santé et des alternatives pour l'industrie, nous, ce qu'on demande aux responsables politiques, c'est la base, ça devrait être le B.A.B.A., c'est tout simplement de les supprimer.
Péricot, faut supprimer purement et simplement la viande transformée.
La loi a été votée en janvier dernier grâce à l'initiative du député Richard Ramos. C'est pas les viandes qu'il faut interdire, c'est les produits nitrités et on fait de la viande différemment. Voilà. Donc effectivement, en conséquence, c'est les viandes chimiques qui sont interdites parce qu'elles sont cancérogènes. L'ANSES l'a confirmé. Donc réglemente. On attend juste que le ministre de l'Agriculture prenne la loi est votée. Il y a juste à prendre des mesures. Ben, ça tarde bien à venir. Je sais pas. Il doit y avoir des lobbies.
Des lobbies. Enfin, vraiment, chez les industriels, ça m'étonnerait.
Entre deux élus du MoDem. Entre Ramos et le ministre de l'Agriculture, ils pourraient se parler quand même.
Mais ça va certainement se passer dans le bon sens.
Eh ben, faut espérer.
Voilà.
Pour nous, les consommateurs.